Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business. French Tech.
La French Tech, aujourd'hui, on va parler de voitures et de voitures de collection. On est avec Quentin Leblond, bonjour, fondateur de Mécanicus. Mécanicus, c'est un peu comme Aramis Auto, c'est même exactement pareil, mais juste pour les voitures de collection, les voitures de rêve. Là, vous annoncez une levée de fonds de 3 millions d'euros. Ça fait 2 ans que vous existez et ça marche très bien. Vous êtes quasiment rentable.
Ouais, on est. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a toujours été extrêmement important d'avoir un business qui soit viable dans la durée. Et la rentabilité, c'était un point important. Alors, on l'est pas encore, mais on est quasiment rentable. Et effectivement, ça prouve que c'est un business qui est pérenne. Et je pense que c'est un bon élément d'avoir des bases solides avant de vouloir grossir très fortement. Donc, oui, c'était un point important pour nous.
Alors, vraiment, si vous aimez les voitures, venez sur le 424 de la TNT. Elle a découvert parce que les voitures présentées, elles sont juste dingues.
Vous avez créé un écosystème,
c'est-à-dire que vous rachetez les voitures, vous les remettez en état et vous les revendez à des particuliers. En plus, vous avez créé un lieu dans le 14e à Paris, House of Mecca, où vous réunissez les passionnés, vous partagez, et puis vous accueillez des startups de l'auto. Dans ce lieu, Laure le disait, vous êtes rentable et vous visez déjà 15 millions de chiffre d'affaires en 2023. Il y a vraiment un public pour des voitures d'occasion, de collection. Hein.
Ouais, c'est énorme. Enfin, ça dépend toujours de la catégorie. Il y a des voitures qui sont plus ou moins regardées par des populations plus ou moins jeunes. Mais les voitures qui marchent vraiment très bien sont ce qu'on appelle des young timers, donc des voitures des années 80, des années 2000.
Mais ça peut plus rouler, ça. Quand on l'a retapé, j'ai bien compris. en ville, avec les zones de faible émission et tout ça, c'est fini.
Alors,
désolé de vous casser un peu l'ambiance.
À Paris, la ville qui déteste le plus les voitures au monde, je pense que c'est assez ambitieux déjà. Mais
disons que si on réussit à craquer le modèle dans Paris, qui est une ville quand même assez autophobe, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ailleurs. Ça, c'est le côté positif.
Comment vous faites ? Vous les rétrofitez ?
Alors, le rétrofit, c'est pas du tout ma cam.
Il y a plusieurs choses.
Il y a la première chose qui est que les voitures qui sont considérées comme étant voitures de collection,
elles auront le droit.
Qui ont plus de 30 ans, ont le droit d'avoir une vignette particulière pour la simple bonne raison que ce sont des voitures qui roulent 1000 à 1500, 2000 km par an et qu'en interdire la circulation, c'est pas ça qui va avoir une incidence directe sur la pollution. Donc, toutes les voitures de plus de 30 ans, en théorie, si elles sont en carte grise collection, donc ça, il faut s'adresser à la FFVE avec laquelle on a pas mal travaillé, sont des voitures avec lesquelles on peut rouler dans Paris. C'est moins le cas pour des voitures de sport.
Mais il faut avoir plus de 30 ans, c'est la voiture de collection.
Si on fait un raccourci très simple, la voiture de collection, c'est une voiture qui a plus de 30 ans et qui doit avoir un tampon collection sur la carte grise qui s'obtient auprès de la FFVE, la Fédération française des véhicules d'époque.
Du coup, alors, c'est quoi le processus? Comment vous les trouvez, ces voitures? Ensuite, vous avez une équipe de mécaniciens spécialisés dans les voitures anciennes. Et dernière question, comment vous les pricez? Comment vous trouvez le juste prix? Je crois que vous avez un système, un outil technologique justement pour ça.
Ouais. Alors, c'est ça qui est assez sympa, c'est qu'on arrive dans un milieu qui avait très peu évolué depuis 40 ans. Donc, la première chose, effectivement, c'était juste de mentionner Aramis ou Auto One. On arrivait avec un modèle économique qui était très différent de ce que font la plupart de nos camarades. C'est que on rachète les voitures. Qu'aujourd'hui, vous venez nous contacter sur notre site ou sur les réseaux sociaux et vous nous dites, voilà, j'ai une Porsche des années 80, une Ferrari des années 2010 à vendre. On est capable, en 24 heures, de vous faire un pricing et de vous faire une offre de rachat. Alors évidemment, modulo le fonds de roulement qu'on a à disposition, parce que c'est un métier qui est assez onéreux en termes de capitaux. Mais voilà, nous, notre modèle économique, c'est vraiment être propriétaire de nos autos pour résoudre le problème principal de ce marché, qui est un problème de confiance. Et c'est un constat que Aramis et Auto One ont fait il y a 20 ans ou 15 ans, en se disant, il y a un vrai problème de confiance sur la qualité des véhicules qui sont vendus. Il faut qu'on soit propriétaire de notre stock pour pouvoir en garantir la qualité. Donc, on va révolutionner le modèle économique du véhicule d'occasion comme ça. Nous, on prend la même verticale avec le même raisonnement pour résoudre ce problème de confiance. Et donc, on est propriétaire de notre stock. Donc ça, c'est la première grosse différence. Comment est-ce qu'on source les voitures? La grosse différence, c'est qu'on arrive en étant full digitaux. Moi, je suis dans le digital, j'ai déjà monté une boîte et c'était moi qui avais fait tout le site web, tout le CRM, etc.
Dans les cabinets esthétiques.
Voilà, exactement, avec deux associés fondateurs. Et nous, on source 80% de nos voitures sur Instagram et Facebook. Ah oui. Donc, on fait de la pub.
Ah oui.
On est à on est assez bon en marketing digitaux et du coup on s'est retrouvé à faire des missions de conseil pour des gens qui travaillent dans le monde de la voiture ancienne sur comment est-ce qu'on gère les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on génère du chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux. Et nous, on source une très très grosse majorité des voitures qu'on va vendre via les réseaux sociaux.
Vous les démarchez
En fait, on fait de la pub en disant aux gens, si vous avez une Porsche, une Ferrari, une Jaguar, une Mercedes, que sais-je, à vendre, on est capable de vous faire une offre de rachat.
Mais est-ce que vous allez jusqu'à ce que dit Anthony, c'est-à-dire vous voyez Jean-Pierre avec sa Porsche sur Instagram et vous lui dites, elle est pas mal, on pourrait vous la racheter à tel prix.
C'est pas scalable.
C'est la suite.
C'est pas du tout. Allez voir quelqu'un sur Instagram, c'est pas scalable. Faire de la pub pour sourcer du lead, c'est scalable. Mais du coup, tout l'écosystème qu'on a construit autour de ça, de nos outils de pub à nos outils de com interne, etc., tout est connecté. En fait, on réussit à avoir un process qui est très start-up-like dans un monde qui pourtant semble un peu archaïque.
Dans votre première vie, vous étiez aussi chez Kepler Chevreux, trader.
J'étais sales, exactement. J'étais spécialisé clientèle hedge fund et j'ai fait ça pendant 5 ans et demi de mémoire ou 6 ans. Ouais. Et ensuite, j'ai géré un hedge fund, j'étais débauché par un de mes clients pour gérer un long short equity pendant un an.
Du coup, ça vous a aidé pour lever les fonds, là?
Être sales ou gérant et pas d'un être particulier. En revanche, avoir des connaissances en finance et être capable de présenter un business model, un BP propre et de savoir ce que c'est un bilan et un compte de résultat, ça c'est une évidence que c'est un atout.
Mais qui est entré dans le capital du coup ?
Alors, je vais pas dire que je suis anti-VC, mais le discours d'avoir un business qui est un peu plus brick and mortar quand bien même il est digital et d'avoir un focus rentabilité rapide avant de vouloir faire de la croissance whatever the cost, n'était pas un discours très sexy auprès des VC il y a 12-18 mois. Bon, on va dire que le mood a un peu changé quand même, on va pas se mentir. Mais du coup, moi, j'ai fait surtout rentrer des business angels.
Ah oui. Très franglais, hein. Je sais pas si vous parlez comme ça dans le business
on arrive à suivre,
mais les 3 millions d'euros, c'est pour augmenter le volume de véhicules, aller en chercher à l'étranger, c'est vraiment pour acheter plus de voitures.
En grande partie, parce que comme on le disait, c'est un métier qui est assez consommateur de capital. Maintenant, je fais attention à mes franglais.
Voilà.
Donc ça, c'est évidemment une des premières raisons. La deuxième, c'est la croissance, donc faire de l'acquisition, faire augmenter la taille des équipes et puis lancer House of Maker. Notre premier métier, c'était vraiment révolutionner l'achat-vente.
Le showroom.
Et House of Maker, qui est maintenant le lieu de vie qu'on a ouvert, qui est dédié à la passion auto et moto.
Ouais.
Et on a eu beaucoup de travaux à faire, etc. Donc ça, la levée faisait aussi partie des financements.
Merci beaucoup, Quentin Leblon, fondateur de Mécanicus.